Alors voilà, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Quelques mots d'introduction assez général pour dire que Jésus n'a pas choisi des disciples parmi les gens qui étaient aisés, parmi les gens les plus éduqués de son époque. Vous le savez, hein, lorsque Jésus appelle des disciples, il appelle beaucoup de personnes qui pêchaient. Alors, ça rapportait certainement du poisson et donc de l'argent, c'était un business, mais ce n'était pas non plus la haute société. Lorsqu'il a envoyé ses disciples en mission, vous connaissez ce texte où il leur dit de ne pas prendre de tunique, de rechange, de ne pas prendre d'argent avec eux, de se contenter du strict minimum. Puis un petit peu plus tard, d'ailleurs, dans l'évangile, il leur dit « Est-ce que vous avez manqué de quelque chose ?» Et les disciples répondent « Non, on a manqué de rien. » Ceci dit, l'argent n'était pas maudit par Jésus et ses disciples. Il y avait des femmes aisées qui soutenaient Jésus et ses disciples, qui vivaient donc aussi, en partie au moins, de dons. Il y avait de l'argent dans la bourse des disciples, et nous le savons parce que c'est Judas qui tenait cette bourse, et il y avait des fois même suffisamment d'argent pour voler. L'évangile de Jean nous dit qu'il volait de l'argent dans la bourse commune. Et il y avait suffisamment d'argent pour subvenir donc aux besoins de Jésus et ses 12 disciples, et même pour soutenir les pauvres, parce que Judas et Guillaume, avec le parfum qui a été versé sur les pieds de Jésus, on aurait pu soutenir les pauvres, probablement qu'il l'avait fait déjà par le passé. Dans la première église à Jérusalem, on peut lire que des prêtres se convertissaient en acte 6, verset 7. On peut supposer qu'au moins certains d'entre eux avaient quelques biens. Paul, que dire de Paul? Alors, lui vivait de dons et de son travail. Il était tantôt dans l'abondance, tantôt dans le besoin, comme il le dit à la fin de l'épître aux Philippiens. Les premiers disciples dans l'église de Corinthe n'étaient pas non plus de la haute société. Paul fait remarquer, juste un peu après les salutations à l'église de Corinthe, que peu de personnes de cette église appartiennent à la haute société. C'est-à-dire qu'il y en avait, mais peu. Et enfin, dans la première communauté chrétienne à Jérusalem, nous savons que les biens étaient répartis entre tous afin qu'aucun ne soit dans le manque. Et on avait vu ça le mois dernier déjà, puisque Jean-Marc nous avait parlé de ce passage lors de l'étude biblique sur la solidarité dans le livre des Actes. Et nous allons revenir d'ailleurs sur ce passage, parce que finalement, s'il est question de solidarité, il est aussi question de biens matériels et d'argent. Et donc on va y revenir, alors il y aura sans doute quelques répétitions par rapport à ce qui a déjà été dit par Jean-Marc il y a 2 mois. On peut en déduire un certain nombre de choses quant au rapport à l'argent, et notamment que l'argent est un bon serviteur lorsqu'on l'utilise pour de bonnes choses, mais un mauvais maître lorsque c'est lui qui donne un sens à notre vie et que finalement nous en devenons esclaves en recherchant un profit toujours plus important. Vous savez peut-être qu'on a une fois posé la question à Steve Jobs, qui était le patron d'Apple. On lui a demandé, parce qu'il était très riche, il était milliardaire, et on lui a demandé, un journaliste, mais à partir de quelle somme un homme se dit « ça y est, maintenant j'ai tout, j'ai toute la fortune dont j'aurais pu rêver, etc. » Et vous savez ce que Steve Jobs a répondu? Il a répondu au journaliste ben, « cette somme, c'est toujours un peu plus que ce qu'il a. » Une réponse à l'opposé de ce qu'ont vécu les premiers chrétiens dans l'église de Jérusalem, et je vous invite à lire quelques versets. On va prendre ce verset dans Acte 2, verset 45, je vous le lis maintenant, puis après un passage un petit peu plus long dans Acte 4. « Donc, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. » Acte 2, 45. Et ce partage vécu est un petit peu plus détaillé au chapitre 4 du livre des Actes, versets 32 à 37, que je vous lis maintenant. « La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie « fils d'encouragement », un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Et après, vous avez l'histoire d'Ananias et Saphira qu'on lira encore tout à l'heure. Alors, le partage et la mise en commun des biens n'étaient pas la façon habituelle de vivre à l'époque. Les premiers chrétiens à Jérusalem ont vécu cette solidarité très forte, ce partage, cette mise en commun des biens, un petit peu comme certaines sectes de l'époque le faisaient. Certains ont supposé que les Esséniens, qui est une secte juive qui existait à l'époque de Jésus et même avant, qui s'était retirée au désert dans un bâtiment, d'ailleurs là où on a retrouvé les manuscrits de Qumran, que les Esséniens sur le site de Qumran vivaient peut-être aussi comme une secte un petit peu en autarcie, en vase clos et en autonomie financière. L'Église de Jérusalem a choisi ce mode de subsistance qui n'était absolument pas habituel. Et cela témoigne d'un rapport à l'argent qui est bien évidemment très loin des règles de notre société capitaliste aujourd'hui. L'argent n'était pas considéré comme une richesse à investir, ni d'ailleurs même à conserver. L'argent était considéré comme appartenant à tous, et le but visé était que personne ne soit dans le besoin. Les biens de tous, ça c'est une petite formule que j'ai trouvée sympa, les biens de tous devaient servir au bien de tous. Les biens de tous devaient servir au bien de tous. Alors plusieurs ont souligné, lorsqu'on lit la description de ces passages, qu'il y a quelques points communs, quelques ressemblances avec un autre système qui n'est pas le capitalisme, mais qui est le communisme. Et oui, il y a quelques points communs. L'idée que personne ne soit dans le besoin, qui est une égalité un peu plus importante entre les... Ouais, que les écarts de richesse soient les moins grands possibles. Mais il y a beaucoup de différences quand même avec le système communiste, et je voudrais en relever au moins quatre. La première, c'est que ce passage dans le livre des Actes est descriptif. Il nous dit simplement comment la première église à Jérusalem a vécu en partageant, en mettant en commun certains biens. Ce n'est pas un texte prescriptif. Il ne dit pas « toutes les églises dans le monde entier et à toutes les époques devront vivre de la même façon que cette première église à Jérusalem ». C'est valable d'ailleurs pour tous les récits de la parole de Dieu. Il nous raconte ce qui s'est passé, pas forcément ce qu'il faut faire exactement. D'ailleurs, on serait bien embêté puisque les autres églises n'ont pas fait pareil et on ne saurait pas quel modèle imiter. Pour les autres églises qui se sont implantées ailleurs, il est fait mention d'aucune autre église qui a repris ce modèle si particulier de la première église à Jérusalem de mise en commun des biens. Deuxième différence, ce système était temporaire. Certains commentateurs font remarquer à cet endroit que Dieu savait que les premiers chrétiens allaient être dispersés et que du coup, ce système était viable et que dans la dispersion, d'ailleurs, ils allaient très probablement perdre leurs biens en raison donc de la persécution et de cette dispersion. Troisième différence, la mise en commun de leurs biens était volontaire, personne n'y était obligé. On le voit dans l'histoire d'Ananias et Saphira, ils n'étaient pas obligés, ils pouvaient garder leur propriété ou n'en vendre qu'une partie, ils auraient très bien pu le faire. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait, mais ils ont menti. Mais ils avaient le droit de dire, on vend une partie et puis on apporte une partie de la vente pour le bien de tous. C'est par générosité et par amour que les premiers chrétiens ont vécu cela, pas parce qu'ils étaient obligés, pas parce que c'était le système et qu'il y aurait eu des sanctions sinon. Il ne s'agissait pas non plus d'un acte unique qui était accompli une fois pour toutes. Le temps des verbes dans les deux passages que je vous ai lus, acte 2, 45, et puis ensuite le passage un petit peu plus long dans acte 4, peut impliquer une action qui dure dans le temps ou qui se répète. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en français... Vous l'aurez peut-être remarqué à la lecture, on avait donc des imparfaits, ce temps qui traduit l'idée de durée et de répétition. Chaque fois qu'un besoin apparaissait, on y pourvoyait, même si pour cela il fallait vendre une partie de ses propriétés. Les distributions étaient faites, non pas systématiquement pour que tout le monde soit exactement à égalité, mais selon les besoins qui apparaissaient au fur et à mesure. Et quatrième différence, la vente des propriétés, la mise en commun n'était que partielle, je l'ai déjà un peu dit. Le texte implique au moins que certains avaient gardé leur maison, puisque l'église de Jérusalem se retrouvait dans des maisons. Voilà. Et ils y prenaient d'ailleurs leur repas dans ces maisons. On fait remarquer aussi que dans Acte 2, verset 44, alors je vous le relis maintenant, tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Le verbe qui est traduit par avoir, hein, ils avaient tout en commun, c'est le verbe qui est effectivement habituellement traduit par avoir quasiment partout, mais néanmoins dans quelques passages, ce verbe signifie l'expression d'une opinion, c'est-à-dire ils considéraient tout en commun, et non pas ils avaient tout en commun littéralement. Par exemple, je vous lis juste un des passages dans lesquels ce verbe est traduit par considérer, Matthieu 14, verset 5, il s'agit de Jean-Baptiste. Il voulait le faire mourir, mais il redoutait les réactions de la foule parce qu'elle considérait Jean comme un prophète. Littéralement, parce qu'elle avait Jean comme un prophète. Donc vous voyez, ce verbe avoir peut être traduit dans certains passages par considérer. Les premiers chrétiens à Jérusalem ne considéraient pas leurs biens comme leur appartenant en propre, mais comme appartenant à la communauté. Si quelqu'un avait des besoins, alors, à ce moment-là, les biens étaient mis en commun et à la disposition des besoins des autres. L'argent était au service du bien de tous dans l'Église. Et donc, on a cet exemple très précis qui nous est donné dans la personne de Barnabas. Barnabas qui avait un champ et qui vend ce champ. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que le texte précise aussi qu'il est appelé, son vrai nom c'est Joseph, mais il est surnommé Barnabas. Et ce surnom signifie fils d'encouragement. Et ce surnom est mentionné au moment justement où il partage une partie de ses biens. Peut-être que le fils d'encouragement, Barnabas, était justement quelqu'un de généreux. Et que c'est pour cela que c'est à cet endroit qu'on trouve la signification de son surnom. Le texte nous parle bien d'un champ qu'il possédait et non de tous les terrains qu'il possédait. Hein. Le texte dit « il vendit un champ ». Alors peut-être c'était son seul champ, on n'en sait rien, mais c'est pas écrit « il vendit son champ » ou « le champ » ou « son seul champ », etc. Peut-être il en possédait d'autres. D'ailleurs c'est assez curieux parce que Barnabas était lévite et en tant que lévite, il ne devait pas posséder de champ. Bon là il se trouve qu'il en possédait un. Pour expliquer d'ailleurs cette curiosité, on a émis trois hypothèses. Certains ont dit que le terrain était sur l'île de Chypre, puisqu'il était originaire de Chypre, Barnabas. Les Juifs s'y étaient établis dans la deuxième moitié du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Mais cela semble peu probable, parce que comment aurait-il pu vendre, alors qu'il se trouvait à Jérusalem, comment aurait-il pu vendre un terrain qu'il avait à Chypre sans y faire le voyage, puis ramener l'argent, etc., avec tous les dangers qu'il y avait à l'époque à voyager avec de l'argent. Alors certains ont supposé que les Lévites qui n'étaient pas, qui ne résidaient pas, qui n'étaient pas originaires de la terre promise, hein, d'Israël, n'étaient pas soumis en fait aux mêmes règles que les Lévites qui habitaient en Israël. Voilà une des explications possibles. L'autre explication, alors vraiment très hypothétique, on a supposé que le champ ne lui appartenait pas, mais qu'il appartenait à sa femme. Et donc dans ce cas-là, ça serait sa femme qui est généreuse, et ça me dérangerait de pencher vers cette hypothèse, puisque c'est quand même Barnabas qui est mis en avant, et c'est bien lui, et non sa femme, qui est montré en exemple. Cette hypothèse est très très fragile. Et puis enfin, dernière hypothèse pour expliquer ce fait qu'un lévite possède un champ, c'est tout simplement que les règles mentionnées dans l'Ancien Testament, en Nombre 35 notamment et Deutéronome 10, ces règles étaient tombées en désuétude, tout simplement. Elles n'étaient pas appliquées. En tout cas, la vie communautaire des premiers disciples à Jérusalem était marquée d'une grande générosité. Et cela, c'est un témoignage de l'amour, en fait, fraternel, fort, qu'il y avait entre eux. Une grande confiance aussi qui pouvait régner envers les apôtres, notamment. Hein, l'argent était déposé aux pieds des apôtres. Il n'y avait pas de soupçon de malhonnêteté. D'ailleurs, quand il y a eu un couple qui a été malhonnête, ben, la punition de Dieu a été extrêmement sévère. Peut-être aussi parce qu'il y avait tout ce partage qui était leur façon de vivre. Alors, ce modèle n'est pas nécessairement à reproduire, comme je l'ai dit, mais nous pouvons nous inspirer de l'état d'esprit qui régnait dans cette première communauté à Jérusalem. On a tout intérêt à vivre et à cultiver l'unité, l'amour fraternel fort et le partage, la solidarité. Et lorsqu'on vit d'ailleurs le partage de façon concrète dans l'Église, il y a des liens qui se resserrent, on vit des choses qui nous soudent. Le texte dit « Ils étaient un seul cœur et une seule âme ». Et ailleurs, c'est à l'amour hein, que nous avons les uns pour les autres que le monde reconnaîtra que nous sommes les disciples de Jésus. Je me souviens d'avoir vécu dans l'église de Colmar quand j'étais enfant. J'ai peut-être déjà raconté cette histoire, mais je la redis là parce qu'elle illustre bien finalement la solidarité, le partage. Un couple qui est très modeste, qui était allé à la maternité parce que la femme devait accoucher, et le mari, lorsqu'il sort de la maternité, après avoir vécu ce beau moment, retrouve sur le parking de la maternité sa voiture brûlée. Et c'était bien sûr un incendie volontaire. Et l'église, à ce moment-là, s'était cotisée pour leur faire un gros don qui leur a permis de se racheter une voiture d'occasion suite à cette naissance, un beau cadeau de naissance, et suite à cette épreuve aussi, voilà, c'est simplement de cette voiture complètement inutilisable. Et je me souviens que oui, il y avait eu quelque chose de beau là qui s'était passé autour de cette famille, de ce couple, et que ça avait vraiment resserré les liens, ça avait été vraiment une générosité très concrète, vécue en Église. Alors, est-ce que nos biens nous servent à faire le bien? Est-ce que nos biens nous servent à faire le bien? Notre rapport à l'argent, encore aujourd'hui, est un témoignage au monde. Le chrétien qui donne avec joie, peut-être certains ne le comprennent pas, mais d'autres, au contraire, vont l'admirer. Donner de ce qu'on a, une partie de ce qu'on a, pour faire le bien. La générosité doit rester une valeur dans les églises, même si on ne la vit pas de la même façon exactement que la première communauté des chrétiens à Jérusalem. Pourquoi ? Parce que c'est un des témoignages de l'amour entre nous, envers notre prochain, et aussi parce que cela témoigne d'un rapport sain avec l'argent. On ne veut pas à tout prix le conserver et le garder, on pourrait dire égoïstement. Je me souviens d'une phrase du trésorier de l'Entente des Églises évangéliques de Strasbourg. Désolé, j'ai encore des références hein, de ma vie d'avant, quand j'étais pasteur à Elkirch, et qui disait, à un moment donné, au moment de la collecte, lors d'une réunion, il disait « Dieu n'a pas besoin d'argent, mais nous avons besoin de donner. Nous avons besoin de partager. C'est en donnant et en partageant que l'argent restera à sa place, c'est-à-dire celle de serviteur. » Il doit nous servir à vivre déjà et à faire le bien autour de nous. En parlant de générosité, vous savez qu'il y a un don de la générosité qui est mentionné dans l'Épître aux Romains. Je ne vois plus le chapitre maintenant, mais c'est le don de la libéralité. Peu de personnes prient pour avoir ce don. C'est une petite blague, mais je pense que c'est vrai. Ananias et Saphira maintenant. Nous allons lire donc Actes 5, versets 1 à 11. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas ? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix ? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur ? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Elle tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Donc dans le contexte de la générosité que nous venons d'évoquer, ce texte a pour fonction essentielle de nous rappeler qu'on ne peut pas tromper Dieu et que Dieu est saint. Luc nous rapporte cet épisode, il est inspiré par le Seigneur pour nous rapporter cet épisode, pour rappeler à la première église, d'ailleurs c'est dans ce texte qu'on a la première mention du terme « église » dans le livre des Actes, au verset 11, tout à la fin, une grande crainte s'empara de toute l'église, première fois qu'on utilise le terme « église » dans le livre des Actes. Luc utilise cet épisode pour rappeler à la première église, ainsi qu'à nous aussi, les chrétiens de toutes les générations qui suivront, la leçon fondamentale que Dieu est saint, qu'on ne peut pas le tromper et que c'est quelque chose de grave. Évidemment, si notre vie devait être évaluée sur la même base que celle d'Ananias et Saphira, nous devrions tous mourir. Ça devrait nous faire d'autant plus réaliser la grâce de Dieu à notre égard. Le texte ne nous enseigne pas un principe, puisque tous les mensonges ne sont pas punis de mort. L'apôtre Pierre lui-même aurait mérité la mort lorsqu'il a renié Jésus par 3 fois. Mais Dieu, dans sa grâce, l'a pardonné. Et dans ce texte, il est effectivement question de mentir devant Dieu. Hein. Mentir à l'Esprit-Saint, ce n'est pas mentir uniquement devant des hommes. Lorsqu'on ment, c'est aussi quelque chose qu'on fait devant Dieu. Et c'est Dieu qui est à l'origine de la sanction qui est prononcée par Pierre. Ce n'est pas Pierre ni les autres responsables de l'Église qui décident de punir Ananias et Saphira, c'est bien Dieu qui le décide. Et la leçon est d'autant plus forte que leur péché semble courant. Ça semble très courant, ce genre de péché. Un mensonge pour se faire bien voir, ou pour se faire mieux voir que ce qu'on était capable de vivre en réalité. Parce que moi, je me suis dit, en relisant ce texte, je me suis dit, mais si vraiment, ce qu'ils recherchaient, c'était d'être généreux et d'être considérés comme tels, ben pourquoi ils n'ont pas tout donné dans ce cas-là ? Peut-être qu'il y avait du coup un rapport aussi à l'argent qui n'était pas sain. Alors, quelle est la nature de ce péché ? Parce que des fois, on se pose la question hein, en lisant le texte. Est-ce que c'est un simple mensonge ? Est-ce qu'il faut y voir quelque chose d'autre derrière ? Est-ce que, justement, comme je le disais à l'instant, est-ce qu'il y avait un rapport malsain à l'argent, un attachement à l'argent ? Ont-ils donné pour le m'as-tu vu, hein, pour soi-disant bénir les autres, mais en réalité ils ont donné pour recevoir leur récompense, comme dit Jésus dans le sermon sur la montagne. Il y a un verbe, c'est le verbe retenir, qui est utilisé au verset 2 et 3. Je relis juste là les versets 2 et 3. Voilà, il garda une partie du prix, et puis ensuite... dans les paroles de Pierre, hein, voilà, tu as menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ. Ce verbe garder des fois traduit par retenir, c'est un verbe en fait qui n'est cité, qui est relativement peu cité. On le trouve, vous savez, on a traduit un jour, à peu près 2 siècles avant Jésus-Christ, on a traduit l'Ancien Testament en grec. Et ça, c'est ce qu'on a appelé la version de la Septante. La version de l'Ancien Testament en grec, qui date à peu près du 2e siècle avant Jésus-Christ, s'appelle la Septante. Et donc, dans la Septante, on a tout ce qu'on a dans la Bible en hébreu, mais en grec. Et bien, dans la Septante, quand on regarde ce verbe grec, hein, donc, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, quand on regarde combien de fois il est mentionné dans tout l'Ancien Testament, une seule fois. Et il apparaît dans le texte de Josué 7, verset 1, à propos d'Achan. Un autre texte où Dieu agit très sévèrement pour Achan et sa famille, qui avaient gardé une partie du butin. Alors certains ont conclu que la faute d'Ananias et Saphira est plus qu'un simple mensonge par cette observation du verbe qui est utilisé là, et effectivement c'est un verbe très peu utilisé dans tout l'Ancien Testament, une seule fois, et comme par hasard encore sur un texte où Dieu intervient de façon claire. On trouve plusieurs incidents similaires à celui d'Acte 5 dans la parole de Dieu. Je ne vais pas tous les mentionner, mais je vais en mentionner 3. Nadab et Abihu qui meurent pour avoir amené un feu étranger sur l'autel. Ça, c'était au tout début du sacerdoce. Vous avez remarqué dans les 3 exemples que je vais vous donner, c'est à chaque fois au début d'une étape de la vie du peuple de Dieu. Donc au début du sacerdoce, Nadab et Abihu meurent pour avoir amené un feu étranger sur l'autel du feu sacré. Achan, je le citais avant, qui meurt au début de la conquête. Ce fameux Uzza, qui meurt au début de la royauté quand l'arche est transportée à Jérusalem. Ces 3 textes, à chaque fois au début du sacerdoce, au début de la conquête, donc du pays promis, et au début de la royauté. Et dans le Nouveau Testament, avec ce texte d'Acte 5, nous sommes aussi au début de la vie de l'Église. À chaque étape importante, Dieu rappelle à son peuple qu'il est saint et qu'il est important d'obéir à sa parole, de se conformer à sa pensée. Et on pourrait bien sûr encore ajouter au début de l'histoire de l'humanité le récit de la chute, mais des conséquences de la chute, probablement le plus grand jugement de Dieu puisqu'il touche tous les descendants d'Adam et Ève, toute l'humanité. La crainte qui saisit l'Église et tous ceux qui apprenaient ces événements est provoquée bien sûr par la mort de ce couple, mais au-delà par l'intervention de Dieu qui se manifeste à ce moment-là, et donc cela a provoqué une grande crainte. Cette crainte-là, Luc, de la façon dont le récit nous est rapporté, Luc cherche à ce que cette crainte s'empare aussi du lecteur. Nous pourrions aussi tomber, et il est terrible de tomber entre les mains du Dieu Saint, Hébreux chapitre 10. Cette crainte nous appelle à la vigilance et ce récit doit nous servir de leçon. Quelle leçon ? Alors, Ananias et Saphira, déjà, sont des exemples à ne pas imiter. Des contre-exemples, des exemples à ne pas suivre. La faute n'était pas de ne pas tout donner, mais de mentir à la communauté pour se faire bien voir. Alors, est-ce qu'il m'arrive de mentir pour me faire bien voir ? Est-ce qu'il m'arrive de manquer de malhonnêteté ? De manquer d'honnêteté, pardon ? Ou d'être... je l'ai mal écrit en plus sur ma feuille, il faudra que je corrige ça. De manquer d'honnêteté pour me faire bien voir. En tout cas, je ne peux pas tromper Dieu. Dieu sait ce que je fais, même si mon prochain ne le sait pas. Et qu'est-ce qui compte le plus ? Et deuxième leçon, Dieu peut agir directement comme il veut et quand il le veut. Ananias et Saphira ne sont pas morts d'une mort naturelle, c'est évident. Et je suis frappé de la vitesse avec laquelle on s'empresse souvent de dire que Dieu n'y est pour rien dans les malheurs. Le Dieu de la Bible n'est-il pas aussi celui qui envoie le malheur, comme le dit Ésaïe, chapitre 45, verset 7. Alors quelquefois on dit oui, mais alors ce Dieu-là, il était juste dans l'Ancien Testament, mais alors dans le Nouveau, Dieu a complètement changé. regardez ce texte, acte 5, je vous renvoie encore vers 1 Corinthiens 11, verset 30, qui dit que plusieurs sont tombés malades dans l'église de Corinthe, et même certains sont morts, parce qu'ils avaient pris la scène indignement. 1 Corinthiens 11, verset 30. On va aller un petit peu plus loin maintenant encore dans le livre des Actes, parce que ce n'est pas que dans l'église de Jérusalem qu'il était question du rapport à l'argent, mais on va voir différentes choses. Je regarde ma montre pour ne pas me perdre. Alors, acte 8, versets 18 à 24. Bon, peut-être on ne va pas le lire. Je vous rappelle juste l'épisode de Simon le magicien. Je pense que si je lis tous les textes, ça va être un peu long. Donc, sinon, regardez votre Bible, donc acte 18, versets 18 à 24. Simon le magicien, il était magicien, pourquoi ? Parce qu'il avait sans doute exercé la magie, c'était des formules magiques qui se transmettaient de magicien à magicien, et souvent contre une somme d'argent. Il avait appris d'argent, donc son savoir-faire magique, et il faisait payer ses services aux gens qui venaient le voir. Et lorsqu'il découvre finalement la puissance de Dieu manifestée par les apôtres, il veut obtenir ce même don, mais en continuant dans la même lignée finalement, en restant magicien, mais avec une puissance encore plus grande. Et il démontre ainsi qu'il n'a pas compris que la foi chrétienne, c'était de servir Dieu et non de se servir de Dieu pour s'enrichir. Et il pense, en fait, en recevant l'Esprit de Dieu, recevoir une puissance qui va lui servir à lui, à s'enrichir. Alors, effectivement, là, c'est un avertissement pour nous. Ce n'est pas l'argent qui doit donner un sens à notre vie. L'argent doit nous servir, pas nous conduire. C'est d'ailleurs d'après cet épisode du livre des Actes avec Simon le magicien qu'on a appelé la simonie, le fait d'acheter, de vouloir acheter une fonction dans l'église. Je me souviens d'ailleurs, et ça m'avait même choqué, je me baladais une fois dans un petit village dans la vallée de la Bruche, et il y avait une église, une assez belle église, et je m'étais un petit peu approché, et puis j'avais vu une pancarte où c'était écrit dessus alors pour un baptême c'est telle somme d'argent, pour un mariage telle somme, il y avait les tarifs quoi. Ouais, bon, c'est un petit peu délicat quand même de faire comme ça, même si on sait bien que certaines choses ont un coût inévitablement. Voilà, cet épisode de Simon le magicien doit nous servir de leçon. Ce n'est pas l'argent qui doit nous conduire, l'appât du gain, mais plutôt servir Dieu qui donne un sens à notre vie. Je me souviens d'ailleurs d'un frère dans l'église d'Ilkirch qui a dit un jour d'ailleurs à son patron, il lui a dit, vous savez, moi je ne travaille pas pour mon salaire. Si je pouvais vivre sans salaire, je travaillerais et voilà, je ne demanderais rien à la fin du mois. Mais seulement j'ai besoin de cet argent pour non seulement vivre moi-même et faire vivre ma famille. Mais il lui a dit, je ne travaille pas pour l'argent. Et je trouvais que c'était un beau témoignage. Alors, je ne sais pas ce qu'il a dû se dire, son patron, alors je ne lui donnerai pas d'augmentation, ou je ne sais pas trop. Mais en tout cas, oui, c'était un bon témoignage, un bon rapport à l'argent. On ne vit pas pour l'argent, c'est l'argent qui vit pour nous, quoi, disons, qui doit nous servir à vivre. Vous avez dans acte 16 aussi cette jeune femme esclave qui est possédée par un esprit de Python, c'est-à-dire un esprit de divination. Alors peut-être vous êtes déjà posé la question, pourquoi l'esprit de Python, dans certaines traductions plutôt littérales, est traduit dans d'autres traductions un esprit de divination? Tout simplement parce que les serpents, et le Python par exemple, étaient utilisés dans des rites de divination. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, Lévitique 19, 26, Deutéronome 18, 10, dans les deux chapitres où il est question de la magie que Dieu dénonce comme une abomination, on a ce commandement de ne pas pratiquer la divination. Si on regarde ce qui est écrit en hébreu, ce sont deux verbes qui sont utilisés, c'est « ne serpentez pas », parce qu'on utilisait des serpents justement pour divination, selon voilà, la position du serpent, on déduisait des choses concernant l'avenir, ne serpentez pas et ne nuagez pas, parce qu'on essayait aussi de lire l'avenir dans les nuages et les formes qu'ont les nuages. Donc l'esprit de Python, c'est un esprit de divination, et c'est voilà, comme cela peut-être qu'on peut le comprendre. Cette jeune esclave rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres, nous dit le texte, dans Actes 16, versets 16 à 23. Paul chasse ce mauvais esprit de cette femme et elle est immédiatement libérée de son don démoniaque que j'ai de la peine à appeler un don. Hein. C'est plutôt un esclavage qu'un don. Et ses maîtres donc se retrouvent sans apport d'argent et accusent faussement Paul et Silas de semer le trouble dans la ville, et c'est suite à cela que Paul et Silas vont en prison, etc. Dans ce texte, il y a plusieurs esclavages qui sont dénoncés. Déjà la femme qui est esclave de ses maîtres. Imaginez-vous la situation de cette femme, c'est assez horrible. L'esclavage de cette femme vis-à-vis de l'esprit qui l'habitait, l'esclavage démoniaque, et aussi les maîtres qui étaient esclave, on pourrait dire, de l'argent qui dépendait voilà, de cette source sordide de gains pour vivre, l'esclavage de l'argent. Autre texte encore, acte 19-19, cette fois-ci je vais le lire. Donc acte 19, verset 19. Une question, c'est dans la ville d'Éphèse. Hein. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Il y avait effectivement à Éphèse un culte idolâtre, on va en parler dans un instant, et donc des gens qui pratiquaient la magie avec des formules magiques, des pratiques secrètes. Et il y avait donc des documents qui avaient une énorme valeur dans lesquels étaient écrites ces formules magiques. Et on en a découvert un peu partout, dont la région d'Éphèse, mais on en a retrouvé vraiment partout. Et c'est ce qu'on a appelé d'ailleurs les Ephesia Grammata, pour ceux d'Éphèse, hein, dont on possède encore aujourd'hui des extraits dans certains musées, à Paris, à Londres, à Leiden. Et la valeur que nous indique le texte donc, de ces livres qui ont été brûlés sur la place publique suite à 3 ans d'évangélisation de Paul quand même dans cette ville est évalué à 50 000 drachmes ou deniers. C'est la valeur de 150 années de travail d'un ouvrier, donc une valeur énorme. Néanmoins possible, Éphèse était une grande ville qui comptait 200 000 habitants. Je crois que c'est la cinquième, une des cinq plus grandes villes de l'époque, en tout cas du bassin méditerranéen connu. Et donc incinérer publiquement ces livres était quelque chose de un événement, vraiment un événement, parce que ça coûtait énormément. Et ça signifiait que la population ne voulait plus de cela, de pratiquer la magie, et aussi qu'ils étaient détachés par rapport à l'argent, parce qu'ils auraient pu se dire, on va se débarrasser de ces livres, mais en récoltant en plus de l'argent. Mais non, ils savaient, ils avaient compris, puisque l'évangile leur avait été annoncé, que si ces livres se retrouvaient ailleurs, ils pouvaient rendre d'autres personnes esclaves, et donc ils ont préféré les brûler. Ceux qui ont accepté l'évangile ont trouvé un plus grand trésor encore. Ces livres ne devaient pas trouver d'autres propriétaires. Plus loin, mais toujours dans Actes 19, versets 24 à 27, un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis en argent et procurait un gain considérable aux artisans. Il les rassembla avec ceux qui exerçaient une activité similaire et dit « Vous savez que notre prospérité dépend de cette industrie. Or, vous voyez et entendez dire que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une grande foule en disant que les dieux fabriqués par la main de l'homme ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de discréditer notre activité, mais aussi de réduire à néant l'importance du temple et de la grande déesse Artémis, et même de dépouiller de sa majesté celle que toute l'Asie et le monde entier vénèrent. » Chaque métier à l'époque avait sa corporation. Et Démétrius était peut-être le responsable de la corporation des orfèvres, des fois on peut dire la guilde aussi des orfèvres, spécialisée dans la fabrication de temples miniatures. Il y a une inscription qu'on a retrouvée en 57 après Jésus-Christ qui mentionne d'ailleurs un certain Démétrius comme étant gardien du temple, mais on ne sait pas s'il s'agit de ce même Démétrius ou pas, parce que ce prénom était très courant dans l'Empire romain. D'ailleurs, on trouve ce nom ailleurs, dans 3 Jean, et puis ce n'est pas le même personnage, c'est certain. Le message de Paul de l'Évangile mettait le business de Démétrius et toute sa corporation en péril. Parce que sous couvert de motifs religieux, ces artisans en fait défendaient leur source de revenus. Alors ils s'inquiétaient du culte qui était rendu à Artémis, ou qu'on appelait aussi la Diane d'Éphèse, mais pas parce que forcément ils étaient plus païens que les autres ou plus adorateurs de cette déesse, mais en fait ils avaient un business derrière. Les motifs religieux, attention aux motifs religieux, ils peuvent cacher toutes sortes de péchés, dont la cupidité. Les vendeurs de statuettes ne s'intéressaient pas à la piété du peuple ni à son bien-être, mais avant tout à leur porte-monnaie. Il est intéressant d'ailleurs de noter dans une lettre de Clément, la lettre de Pline le Jeune sans doute, à Trajan, il mentionne que le commerce du fourrage des bêtes destiné au sacrifice païen était considérablement handicapé par l'extension du christianisme. Donc effectivement, lorsque l'évangile arrivait dans une zone, il pouvait vraiment déranger un certain commerce qui se vivait autour des dieux qui étaient adorés, et notamment donc en Bithynie, au nord de l'Asie mineure. Bon, alors Éphèse, c'est pas en Bithynie, mais c'est pas très très loin non plus. L'Asie mineure, c'est l'actuelle Turquie. Donc la déesse Artémis du panthéon grec correspond à la Diane des Romains, mais l'Artémis d'Éphèse n'est pas la même Artémis que l'Artémis du panthéon grec. C'est l'Artémis d'Éphèse, l'Artémis en fait du panthéon grec qui correspondait à la Diane des Romains, c'était la déesse de la chasse, alors que l'Artémis d'Éphèse a plutôt les caractéristiques d'une autre divinité chez les Grecs, chez les Romains, celle de Cybèle, la déesse de la fécondité. Alors elle est représentée comme ça, je ne sais pas si on voit bien, avec donc une vingtaine de saints. Ça représentait la fécondité, l'abondance, voilà. Et elle était censée être tombée du ciel. Alors, on ne sait pas trop, est-ce que c'était simplement quelque chose de spirituel, ou est-ce qu'à l'origine il y avait une sculpture de cette déesse qui aurait été sculptée dans une météorite. Certains ont émis cette hypothèse. Sur la statue, on a découvert des formules utilisées comme des incantations magiques, et de nombreuses reproductions de la déesse datant de la fin du 1er siècle ont été retrouvées à Éphèse. Le temple d'Artémis dans lequel était adorée cette déesse ressemblait à ça. Alors, on a l'habitude de voir des temples grecs comme ça, tout blancs. Mais en fait, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des couleurs, comme d'ailleurs les pyramides en Égypte, les temples égyptiens, etc. Certains endroits, on voit encore des couleurs, mais elles sont très très faibles. Mais il y avait des couleurs partout, et voilà peut-être à quoi pouvait ressembler le temple d'Artémis. Il a été incendié plusieurs siècles avant Jésus-Christ, puis reconstruit en marbre blanc avec l'aide des cités environnantes, et on y montait par un escalier avec 12 marches imposantes. Alors, là, on ne le voit pas, bien sûr, sur cette image de synthèse, mais ça ressemble en tout cas beaucoup à un autre monument que vous connaissez, qui est encore debout. Lequel ? Au Parthénon d'Athènes. Hein. Sauf que celui d'Artémis, il était en volume 4 fois plus grand encore que le Parthénon athénien. Il y avait 100 colonnes en marbre de 16 mètres de haut et 1,80 m de diamètre, c'est à peu près ça. L'intérieur était orné de sculptures, des plus grands sculpteurs de l'époque, Phidias, Praxitèle, Scopas, et il y avait des nombreuses inscriptions qui comportait la formule de prière « Grande est la Diane des Éphésiens ». D'ailleurs, c'est ce qu'il répète après dans le texte, à un moment donné, pendant 2 heures ou je ne sais plus combien de temps, il répète ça. Et ce temple comptait parmi les 7 merveilles du monde. Je ne veux pas vous dire les 7, mais vous savez qu'il y avait la pyramide de Khéops, les jardins suspendus de Babylone, qu'est-ce qu'il y avait encore, le phare d'Alexandrie, je crois. Et puis, en tout cas, voilà, le temple d'Artémis. Des visiteurs de tout le monde civilisé de l'époque venaient pour le voir. Et on y a retrouvé d'ailleurs des monnaies d'argent de nombreux pays, ce qui atteste, comme nous le dit le texte de la Bible, que cette déesse, la Diane d'Éphèse ou l'Artémis d'Éphèse, était renommée dans tout le bassin méditerranéen. Alors voilà, ça c'était le plan du temple. Donc il y avait beaucoup de colonnes avant d'arriver au cœur du temple. Et donc au centre du temple, il y avait un autel qui était consacré à cette divinité. Voilà ce qu'il en reste aujourd'hui par contre de ce temple. C'est un peu moins glorieux, hein. Voilà, dans une zone un peu inondable, je ne sais pas si ça se voit un petit peu sur l'image. Ça, c'est le reste de l'autel à la Diane d'Éphèse. Et ça, alors oui, ça c'est une reconstitution de ce temple en miniature. Vous voyez la taille des tulias juste à côté. C'est un temple miniature qu'on trouve dans un parc en Turquie. Et alors, je trouvais ça trop marrant. Ce parc s'appelle Miniaturk. Il y a beaucoup de miniatures et ils ont joué avec ce jeu de mots. Ils ont appelé ce parc Miniaturk à Istanbul. Voilà, une reproduction donc du temple d'Artémis. Avant de repartir de leur visite, les visiteurs achetaient généralement une représentation du temple d'Artémis, pas comme un souvenir comme on pourrait faire aujourd'hui, hein, et on le pose ensuite sur une étagère chez nous pour que nos invités nous disent « Ah, tu étais là » et tout ça. Mais pour continuer plutôt chez eux le culte de la déesse sur un hôtel domestique qu'ils fabriquaient chez eux. Et ils continuaient donc avec les petites statuettes ou ces temples miniatures à adorer la déesse. Ou alors ils en achetaient puis les suspendaient dans le temple comme une offrande à la divinité. On a retrouvé de nombreux temples miniatures en terre cuite ou en marbre dans les environs d'Éphèse, et une inscription qu'on a trouvée à Éphèse aussi parle du don de 29 statuettes d'argent et d'or offertes au temple d'Artémis par un certain Vibius Salutaris, et elles ont été transportées au temple au cours d'une procession solennelle. Et d'ailleurs il y avait un mois de l'année, le mois de mars-avril, qu'on appelait le mois d'Artémison, voilà le rapport avec la divinité Artémis. Ce mois-là, le mois d'Artémison, avait lieu de grands pèlerinages au temple où on portait des offrandes à la déesse. Le culte des objets, justement, liés à ce temple, était très florissant. On comprend donc que la prédication de Paul, qui avait convaincu beaucoup d'Éphésiens que les dieux n'existaient pas, ait vraiment porté un coup important à ce commerce, et que Démétrius et ses collègues en ont subi le contre-coup par une baisse de leurs revenus. Bon, le temple a ensuite été abandonné pendant des siècles, et c'est qu'à la fin du XIXe siècle qu'on l'a retrouvé au nord-est de la ville, et donc c'était les ruines que je vous ai montrées tout à l'heure, il ne reste pas grand-chose. Rapidement, quelques autres mentions encore de l'argent dans le livre des Actes. Je vais passer vraiment vite là, pour ne pas prendre trop de temps. Pierre qui dit aux mendiants devant le temple « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Alors est-ce que Pierre il dit simplement aux mendiants, comme nous on peut dire à des gens qui des fois nous demandent « Non, non, j'ai rien. » Est-ce que c'est ça qu'il disait? Ou alors est-ce qu'il voulait vraiment dire qu'il avait vendu, effectivement, peut-être des biens qui étaient à lui pour l'Église, et il disait « Non, je n'ai pas d'argent. » En tout cas, voilà, sa situation était probablement modeste, mais je trouvais intéressant qu'ils disent « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Donc, ce n'est pas parce qu'il n'a pas d'argent et pas d'or qu'il n'a rien. « Ce que j'ai, il dit, je te le donne. » Jésus a dit « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » On peut offrir notre amitié, on peut offrir du temps, on peut offrir l'Évangile. Tout cela sans argent. Acte 16, verset 14, j'ai un mot très très rapide de Lydie, qui avait ce commerce de pourpre. Elle était marchande de pourpre. C'est un commerce qui était réservé pour les personnes qui achetaient des habits donc teints en pourpre, des habits de luxe, qui rapportaient beaucoup d'argent. Commerce très lucratif. Mais l'argent de Lydie va servir les intérêts du royaume de Dieu. Elle a accueilli Paul et son équipe missionnaire chez elle. Elle insiste d'ailleurs même pour que Paul et son équipe viennent profiter de son hospitalité. Les chrétiens de Philippe, on le sait, se réunissaient dans sa maison. Il est probable d'ailleurs que Luc soit resté à Philippe quelque temps et continue à profiter de l'hospitalité de Lydie, puisque à partir de ce passage dans Acte 16 où Paul et son équipe missionnaire sont accueillis chez Lydie, c'est une section du livre des Actes en nous, ce qui inclut donc l'auteur du livre lorsqu'il dit nous. Après, jusqu'au chapitre 20, on n'a plus de section en nous. Donc on peut supposer peut-être, Luc, il est resté aussi à Philippe, il a bénéficié de l'hospitalité de Lydie, et puis il aurait commencé à écrire son évangile ou les Actes des Apôtres à ce moment-là, hein, peut-être. Voilà. Je vous le dis aussi, peut-être vous le saviez, mais la teinte pourpre dont Lydie était donc justement commerçante s'obtient à partir d'un coquillage, hein, un coquillage qui s'appelle le murex, qui est un peu violet, justement. On le trempe dans l'eau, les colorants du coquillage sortent, et puis on récupère ça, je ne sais pas comment exactement, mais voilà, c'était ça en fait. Hein. C'est un colorant naturel. Acte 20, versets 33 à 35, Paul qui dit « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. » Paul a travaillé pour subvenir à ses besoins. Il faisait des tentes et il a aussi accepté les dons. Hein. Quand il recevait un don, d'ailleurs, il s'arrêtait de travailler pour se consacrer entièrement à son activité d'implanteur d'église. En acte 18.5, il est question de Timothée qui revient de Macédoine. Et à ce moment-là, Paul se remet à temps plein dans le ministère. Je vais quand même vous lire ça. Acte 18, verset 5. Quand Silas et Timothée arrivèrent de la Macédoine, pressés par l'Esprit, ils attestaient aux Juifs que Jésus était le Messie. Je ne sais plus. À un endroit, on voit que justement, il y en a qui reviennent de Macédoine. Et dans Macédoine, il y avait la ville de Philippe. Et les Philippiens, on sait qu'ils ont fait plusieurs dons à Paul. Et je ne sais plus où exactement. Voilà. Peut-être que Paul reçoit, du coup, même si ce n'est pas explicitement mentionné, à ce moment-là, un don des Philippiens, et ce qui lui permet de se libérer pour le ministère à temps plein. Mais quand il n'avait plus d'argent, ben Paul se remettait à son travail. Et il est resté intègre, il n'a pas voulu s'enrichir avec son ministère. Il dit « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne ». Il a même vécu des moments où il l'a vécu dans le manque, dans le besoin, hein, comme il le dit dans Philippiens 4. Voilà, il y a aussi l'épisode dans Acte 21 où Paul accepte de payer les frais des sacrifices pour 4 personnes. Pour éviter la fausse rumeur que Paul prêche d'abandonner la loi de Moïse, il se fait conseiller et on lui dit bah, écoute, paye du coup les sacrifices pour ces personnes-là et comme ça on ne pourra pas t'accuser d'être contre la loi de Moïse. Donc là aussi, c'était des sommes qui pouvaient être assez importantes. C'était voilà, plusieurs pigeons, un agneau, etc. Voilà, ça pouvait être multiplié par 4, ça pouvait être pas mal. L'argent est encore ici utilisé pour servir et non comme un. Pour être. Paul n'en est absolument pas esclave, il dépense cette somme importante pour servir à son bon témoignage, à sa bonne réputation. Vous trouverez d'autres détails hein, dans l'étude écrite. Encore, je mentionne juste que Félix s'entretenait avec Paul régulièrement. en espérant que Paul lui donnerait de l'argent. C'était une, voilà, Paul était donc pendant 2 ans emprisonné avec Félix, et Félix venait de temps en temps lui rendre visite. Il espérait peut-être que Paul lui donne de l'argent contre une libération. Paul ne l'a jamais fait. C'était des pratiques de corruption qui étaient courantes à l'époque et qui le sont malheureusement encore aujourd'hui sous diverses formes. Voilà, Félix... D'ailleurs, le texte nous dit que Félix avait maintenu Paul en prison pour plaire aux Juifs, mais il était quand même prêt voilà, à se laisser corrompre pour de l'argent. On peut supposer que son rapport à l'argent n'était pas non plus forcément très bon. Alors voilà, on en arrive au terme de petit parcours du livre des Actes et de ce qu'il nous dit quant au rapport à l'argent. Alors l'argent permet de vivre, il n'est pas tabou déjà dans le livre des Actes, on en parle ici ou là, alors pas à chaque chapitre non plus, mais l'argent permet de vivre, mais il ne doit pas être le but, tout simplement, de notre vie. Dieu ne nous demande nulle part de faire fortune. Dieu ne nous demande pas ça pour réussir notre vie. L'appât du gain n'est pas dénoncé ouvertement dans le livre des Actes, il est ailleurs, mais la soif de posséder toujours plus n'est absolument pas encouragée. On voit au contraire que la plupart des disciples de Jésus sont des personnes relativement modestes. Alors nous, qui faisons partie quand même des plus riches du monde, sommes-nous simples dans notre façon de vivre? En tout cas, c'est un encouragement à rester simple dans notre façon de vivre. Laissons l'argent à sa place. Sa place, c'est celle de nous servir. Nous servir pour faire le bien, nous servir à vivre tout simplement. Mais en aucun cas, l'argent, l'appât du gain ne doit être une motivation dans la vie du disciple de Jésus parce qu'elle se deviendrait à ce moment-là un esclavage. Jésus, une parole de Jésus nous est rapportée aussi dans le livre des Actes, c'est qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors donner, c'est sans doute le donner avec générosité, avec joie. C'est sans doute le meilleur antidote à l'attachement à l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. La foi, si. Ça vous rappelle peut-être ce qui est écrit sur nos cartes bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur, la foi, si. Alors, souvenons-nous-en. Voilà, merci de votre attention. Étant donné l'heure qui a tourné un peu plus vite que ce que je pensais, on ne va pas forcément prolonger. Mais bon, voilà, je suis disponible pour vous aussi, puis si vous souhaitez discuter ou encore un petit peu échanger, je vais conclure pour nous tous par la prière. Notre Dieu, ta parole nous invite effectivement à une vie simple, à un rapport à l'argent détaché. Seigneur, effectivement, que ton esprit permette que nous mettions en pratique cela, que tu nous diriges, que tu nous inspires, que les biens que tu nous as confiés puissent servir au bien de ceux qui sont autour de nous. Donne-nous, Seigneur, d'être des témoignages aussi dans la façon d'utiliser les biens que tu nous as confiés. Amen.
Amen.
Pourrais chanter ce petit chant qu'on connaît tous par cœur, « Toi qui disposes de toutes choses ».
Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois, ô Père, notre prière de
à chacun.
Merci. Merci.